franceinter.fr.
La revue de presse, bonjour Hélène Jouan.
Bonjour Patrick.
On commence par l'affaire des prêts toxiques de la banque BNP Paribas avec un témoignage inédit dans la presse ce matin.
Elle s'appelle Nathalie Chevalier, c'est une ancienne directrice d'une filiale de la BNP. Et ce qu'elle confie à Libération après l'avoir dit à une juge, car une procédure judiciaire est en cours, est accablant. Tout commence en 2008, quand après la crise des subprimes, la banque n'arrive plus à écouler ses prêts à taux révisables. Elle imagine alors un nouveau prêt, Helvet Immo, un prêt octroyé en francs suisses, mais remboursable en euros. Nathalie Chevalier, chargée d'en établir l'argument commercial, émet très vite des réserves. Elle fait tourner son outil de simulation, permettant d'anticiper les évolutions possibles du capital à rembourser, selon le taux de change entre francs suisses et euros, et elle se rend compte de la dangerosité du produit. J'ai dit à ma hiérarchie que j'avais des crash tests, qu'ils étaient très mauvais et que je refusais de vendre un tel prêt. Mais cette hiérarchie ne veut rien entendre, elle l'écarte du groupe de travail. Et malgré les mises en garde de la banquière, Helvet Immo est commercialisé à partir de mars 2008. Résultat, 4655 prêts sont octroyés pour 700 millions d'euros. Sauf que très vite, les craintes de Nathalie Chevalier vont s'avérer fondées. Témoignage, toujours dans Libération, de couples étranglés par la hausse du franc suisse. Benjamin Gomis avait emprunté 140 000 euros en 2008, il lui en reste 200 000 à rembourser, soit beaucoup plus que le capital emprunté. Jérôme Touzé, autre détenteur malheureux d'un emprunt qui a flambé, accuse. La BNP a sciemment mis sur le marché un produit explosif, c'est comme vendre une voiture sans frein. Après une période où il avait plusieurs fois par jour les yeux rivés sur la variation du taux de change, ça devenait obsessionnel, dit-il. Il espère aujourd'hui que la procédure engagée contre la BNP aura une issue favorable. Plus d'un millier d'emprunteurs ont déjà porté plainte. La banque est mise en examen pour pratiques commerciales trompeuses, mais continue d'assurer que les risques étaient clairement stipulés aux clients. Une défense que le témoignage de Nathalie Chevalier vient largement ébranler.
Tout autre sujet, Hélène, le foot est à la une de la presse française.
Avec évidemment l'affaire Valbuena-Benzema, tais-toi et rame. Titre Antoine Placé dans La Voix du Nord. Les dirigeants du foot français n'ont plus qu'à ramer face à cette nouvelle avanie, dit-il. 5 ans après la bombe Nysna, la révolte des Bleus en pleine Coupe du Monde, l'équipe de France s'est pris un nouvel uppercut de bas étage avec cette histoire, dit-il. L'image des sales gosses vient de refaire surface. Et c'est cette image d'enfant pourri du foot sur laquelle s'acharne la presse ce matin. Dans un édito au Figaro, Yves Tréhard juge odieux le comportement de certains joueurs, des garçons sans éducation, sans respect, sans confiance, sans foi ni loi, n'en jetez plus. Délinquance en col blanc version FIFA, poursuit-il, ou délinquance de voie publique version sextape hors des terrains. Le football n'est pas beau à voir. Alors en dehors du cas de conscience posé à Didier Deschamps, comment faire cohabiter sur le terrain deux joueurs qui, judiciairement, n'ont plus le droit de se côtoyer? Sauf à construire des vestiaires séparés, s'amuse Grégory Schneider dans Libé, des horaires alternés pour les repas et les entraînements et expédier chaque joueur l'un sur l'aile droite du terrain et l'autre sur l'aile gauche. Ce que l'Humanité souligne ce matin, c'est le nouveau coup porté par le football d'en haut au football d'en bas. Éric Thomas, président de l'Association française de football amateur, se lamente. Beaucoup de dirigeants bénévoles m'appellent pour me dire qu'ils sont écœurés, qu'ils vont abandonner. Des jeunes veulent arrêter, des parents ne veulent plus inscrire leurs enfants parce que le foot renvoie une mauvaise image. Le foot amateur est victime de ce qui se passe en haut de la pyramide, conclut-il.
L'image renvoyée par le haut de la pyramide, c'est aussi le problème de Manuel Valls, Hélène.
Attaqué de toutes parts sur le manque d'autorité de l'État, Manuel Valls a contre-attaqué hier dans une tribune publiée sur son compte Facebook. Le Premier ministre y convoque deux philosophes, Hannah Arendt et Hobbes, pas moins, pour reconnaître un effondrement plus ou moins général, plus ou moins dramatique de toutes les autorités traditionnelles. Tout ça pour expliquer les violences à Air France, la fusillade mortelle à Marseille ou encore les scènes d'émeutes à Moirans. Moirans, justement, où il se rend ce matin pour mettre en pratique ce qu'il estime être la juste réponse, à savoir une éthique de comportement consistant en respect scrupuleux de l'indépendance de la justice. Dans Libération ce matin, le correspondant à Grenoble souligne que l'enquête se poursuit avec le souci de ne procéder à une série d'arrestations qu'une fois des preuves claires réunies, eh bien aucune encore à ce jour. En attendant, le discours sur le laxisme du gouvernement a détrôné au hit-parade des candidats au régional Les Républicains les inusables diatribes contre les ravages du communautarisme musulman, nous raconte Libération. Autre tribune, celle de Jacques Delors, publiée cet après-midi dans Le Monde, pour voler au secours de Schengen. Alors que les ministres de l'Intérieur, puis les chefs d'État et de gouvernement doivent se retrouver la semaine prochaine, avec de nouveau à l'ordre du jour l'afflux des migrants en Europe, eh bien l'une des figures tutélaires de l'Europe les exhorte à ne pas revenir en arrière, en croyant par exemple que les contrôles aux frontières nationales seraient la solution. En matière de terrorisme comme de migration, dit-il, l'union fait la force, la désunion nous désarme. Et puis on vote en Birmanie dimanche, les élections les plus libres, malgré quelques réserves, depuis 1990. Et tout le monde attend la victoire de la dame de Rangoon, Aung San Suu Kyi. Mais c'est un scrutin qui se déroule sur fond de tensions religieuses, tensions ethniques. Mediapart est parti à la rencontre de ses voisins de l'intérieur, ces mosaïques d'ethnies qui composent la Birmanie et dont beaucoup n'ont pas le droit de vote. Des musulmans notamment, qui vivent à Sitwe, dans la province pauvre de l'Arakane, sous le régime de l'apartheid. Et de la ségrégation, interdit de déplacement, raconte Guillaume Delacroix, subissant une limitation forcée des naissances et n'ayant plus accès ni aux soins ni à l'éducation. La lady de Rangoon a soigneusement évité le sujet pendant toute la campagne, de peur de se mettre à dos les bouddhistes, des bouddhistes qui représentent 80% de la population et dont une certaine mouvance a fait campagne contre le risque d'islamisation du pays et pour la préservation de la race birmane, nous raconte l'Humanité. Décidément, des thèmes de campagne qui traversent bien des pays.
On termine, Hélène, par un animal à sauver.
Le taureau de l'opéra, nouvelle cause des défenseurs des bêtes. C'est le Parisien qui nous raconte l'histoire. Easy Rider n'est pas tout à fait le genre de diva qu'on a l'habitude de voir sur les planches de l'opéra Bastille, mais le bovidé de 7 ans a obtenu le rôle du veau d'or pour l'opéra de Schoenberg, Moïse et Aaron, mis en scène par Romeo Castellucci. Alors on voit l'animal à deux reprises enfermé dans une cage en verre. Aucun animal ne devrait être utilisé pour notre divertissement, sauf que les pétitionnaires. Alors moi, ce que je préfère, c'est la défense de son éleveur qui explique que ça fait des mois qu'on passe l'opéra de Schoenberg à Easy Rider dans son pré, et puis il est à peine 30 minutes sur scène. Alors franchement, il est mieux là que les taureaux dans leur box pendant le salon de l'agriculture, dit-il. Schoenberg tous les jours ou l'enfer de la porte de Versailles 8 jours par an. Quelle est la vie la plus bête? Je vous pose la question.
Patrick. Bah oui, c'est une bonne question. Merci à vous, Hélène Jouan, pour la revue de presse. Bonjour François Morel. Vous avez joué avec des poules sur scène, non? Ça vous est pas arrivé, non?
Des poules?
Non,
j'en ai pas le souvenir.
Non, il me semble dans un spectacle de Jérôme Deschamps. Bon, mais peut-être je me trompe. ça vous reviendra. Vous n'avez pas joué avec des animaux déjà?
Non, avec des actrices.
Ouais. Avec des actrices, d'accord.
Oh là 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 là.
Savez-vous que on va vous retrouver dans un quart d'heure.
Oui, bon bah. À tout à l'heure.
Oui, pour du non.
Savez-vous que le poids du cerveau de la femme est généralement plus petit à propos que celui de l'homme, mais le poids du cerveau n'a rien à voir avec l'intelligence.
Absolument.
Ainsi, Anatole France avait un cerveau extraordinairement petit.
Voilà, c'est dans les lieux communs qu'on utilise, mais pour vraiment renforcer le poids de cette image, c'est effectivement, en science, on ne fait pas du politiquement correct. Ça veut dire on cherche des choses, et puis quand on trouve des choses, on essaie de faire sens d'elles. Mais il s'avère, c'est très clair, que le poids du cerveau n'a pas de rapport avec l'intelligence.
Voilà, c'est Lionel Nakache, notre invité ce matin, neurologue, professeur à la Pitié-Salpêtrière. Il participe demain au colloque Neuroplanète, les incroyables pouvoirs du cerveau, colloque organisé par Le Point à Nice aujourd'hui et demain, en partenariat avec France Inter, avec notamment le champion d'apnée Guillaume Néry, le chef Thierry Marx ou encore Aldo Naouri, une quarantaine d'experts réunis par le magazine Le Point pour la première fois. Inscription gratuite. Lionel Nakache, on vous retrouve dans une minute.